Je pense que vous comme moi, pour la plupart d'entre nous, nous avons lu les évangiles, nous connaissons la Bible, nous connaissons ce verset de peut-être du prophète Ésaïe qui nous dit que le Seigneur Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Le texte nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire que, voyez-vous, cette parole est profonde parce qu'elle veut dire par là que finalement, si nous avions vu le Seigneur Jésus, nous n'aurions rien de plus que ce que nous avons parce que nous avons sa parole, parce que nous avons les évangiles, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour le voir parler, agir, vivre. Et le fait de le voir avec des yeux, avec nos yeux, n'aurait rien apporté de plus. Tout l'important n'était pas dans son attitude physique, dans sa beauté, dans... Vous savez, souvent dans les films qui ont été tentés sur la vie de Jésus, on prend un acteur beau, blond, etc. Le Seigneur n'était pas ni beau, ni blond, c'était un juif, et le texte nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Et lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, alors on le voit agir, parler, et c'est ses paroles et ses, j'allais dire, ses agissements qui sont riches d'enseignements pour nous. Et c'est la parole, nous connaissons ces versets qui nous dit que toutes choses passeront sur cette terre. Ce beau bâtiment, il passera, mais une chose demeure, c'est la parole. Alléluia. Et j'ai dit la parole et ses agissements aussi, parce que lorsqu'on plonge nos regards dans les évangiles, on est stupéfait de voir les miracles. Le Seigneur n'a pas cessé pendant les 3 ans de son ministère de faire du bien partout où il passait. De guérir des lépreux, de rendre la vue à des aveugles, de rendre la santé à des paralytiques, de donner à manger à 5000 personnes qui étaient venues, qui l'écoutaient, et il nous est dit que le jour était passé, la nuit arrivée, que les disciples s'inquiétaient en disant « mais ils vont avoir faim, ils vont renvoyer chez eux ». Le Seigneur prenait soin de tous ceux auxquels il s'adressait. Et toute la parole de Dieu me dit que le Seigneur, partout où il passait, il faisait du bien. Et ce matin, je voudrais vous parler d'une rencontre exceptionnelle. Une rencontre exceptionnelle. Je vais voir si le stratagème marche. C'est en haut. Ah oui, c'est en haut. Bon, mais c'est pas grave. Ce qui est écrit en haut, donc il vous faut l'imaginer. Alors, une rencontre exceptionnelle parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, ce n'est pas que pour nous faire du bien, mais c'est pour nous parler en vérité. La vérité nous fait du bien. Et il faut oser se préparer à dire « Seigneur, je ne veux pas simplement t'entendre me dire ou m'attendre à toi dans ma vie pour que ce soit des choses qui me fassent selon mon bon plaisir. Des choses qui me prennent, vous savez, dans le sens du poil. Hein, l'expression, on caresse dans le sens du poil. C'est ce qui me fait plaisir, c'est ce dont j'ai envie. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a une parole de vérité. Et voyez-vous, je suis frappé de voir que dans la parole de Dieu, il y a des moments où le Seigneur a des attitudes auxquelles on ne s'attend pas. Il y a quelques détails comme ça qui nous sont donnés dans la parole de Dieu. des moments où le Seigneur a une attitude, on pourrait presque dire curieuse, qui dénote avec tout ce qu'on a vu dans les évangiles. Par exemple, un jour, le Seigneur emmène les disciples dans une barque pour traverser un lac, le lac de Tibériade. Et ce jour-là, le Seigneur dort. C'est la seule fois dans l'évangile où nous le voyons dormir. Ça serait intéressant à développer, je ne vais pas le faire ce matin. Mais il y a un autre passage où on voit le Seigneur dans une attitude très curieuse, en rupture par rapport à tout ce qu'on connaît, en rupture par rapport à ces moments où il passe, il fait du bien, il nourrit, il guérit, il prend du temps pour parler à la Samaritaine, en rupture complète. Vous voulez bien, on va le lire. Matthieu 21, 10, et là on le voit en plus. Matthieu 21, 10, nous lisons ceci. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Oui, parce que sa renommée était parvenue aux oreilles de tous. Celui qui faisait des miracles, celui qui... Et donc, on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Voilà, on arrête là notre lecture. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une certaine violence de la part de Jésus. On le voit, j'ai essayé de trouver sur Internet, j'ai trouvé, je ne sais pas si on le voit bien, peut-être on pourrait éteindre la lumière là. On verrait mieux, je pense. On va essayer, voilà, un peu mieux. On imagine le temple où il régnait un silence, une atmosphère de calme, de paix. Il y avait des changeurs qui étaient dans un coin du temple avec des tables sur lesquelles il y avait de la monnaie. Et il était dans la loi de Moïse, quand on venait au temple, on venait avec un sacrifice, et les sacrifices variaient en fonction de la richesse des gens. Les plus pauvres offraient des tourterelles, et normalement, les sacrifices auraient, les animaux qui étaient pris pour les sacrifices auraient dû être emmenés, mais certains venaient de très loin, et donc venaient... Et acheter le sacrifice sur place. Et ils n'avaient pas encore le bout de plastique que nous avons, la carte bleue. Et ils arrivaient, et donc ils changeaient. Et petit à petit, pour les besoins, je dirais la facilité, les changeurs qui devaient initialement être dehors, petit à petit s'étaient installés à l'entrée du temple. Et donc, vous imaginez le temple, un calme, un peu de bruit par-ci, par-là, mais très peu. Les gens qui rentraient là dans un esprit de recueillement, et tout d'un coup, un bazar pas possible. Des chaises qui se mettent à valdinguer, des tables renversées, de la monnaie, des objets métalliques qui tombent par terre, un brouhaha terrible. truc absolument inhabituel. Ça alors, un tel vacarme, une telle violence. Jésus, on n'était pas habitué à ça. Et voyez-vous, le texte nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Et mes frères et sœurs, qui est-ce qu'on peut rencontrer quand on rentre dans le temple de Dieu? Qui est-ce qu'on peut rencontrer quand on rentre dans l'église de Jésus-Christ? Qui rencontre-t-on? Alain Garcia? Jean-Luc Zolesio? Qui pouvait-on rencontrer dans le temple de Dieu? Bien sûr, Dieu. Et voyez-vous, dans ce temple de Dieu, la question, c'est que font ces vendeurs et ces acheteurs? Parce que, vous l'avez peut-être remarqué dans ce que nous avons lu, il nous est dit que Jésus mit dehors les vendeurs et les acheteurs. Il n'a pas mis dehors que ceux qui vendaient. Parce que faisaient-ils ceux qui vendaient? Certainement, ils faisaient un peu de, j'allais dire, ils gagnaient leur vie, ils faisaient un peu de commerce dans le temple. Pas très beau. Un lieu dont Jésus dira, ma maison est une maison de prière. Mais les acheteurs, eux, que faisaient-ils? Accomplissait-il un devoir religieux? Ils venaient au temple, la loi disait il faut apporter un sacrifice, ils étaient venus sans rien. Et quelque part, ils se sont dit je vais acheter un sacrifice et je vais l'offrir. Il y a de ça quelques années, on est allé à Jérusalem avec mon épouse, on y est allé deux fois. La première fois où nous sommes allés, bien sûr nous sommes allés au mur des Lamentations, et là j'ai observé une scène étonnante. Dans son attitude, tout me laissait penser que c'était un Américain, peut-être un Texan qui arrivait en short, lunettes de soleil, caricatural j'allais dire. Hein. Un Américain, un richissime Américain qui devait débarquer d'un transatlantique quelconque qui avait dû s'arrêter, je ne sais pas, sur la côte, et ils avaient fait une excursion, et il était sans doute d'origine juive, et il arrivait devant le mur des Lamentations, et là, sur le côté, je n'ai pas bien compris s'il est loue, s'il est prête, il s'est fait prêter, ou il a loué une kippa, des phylactères, vous savez ce qu'on met autour des petites boîtes avec des fils qu'on attache sur la main et puis une petite boîte qu'on attache avec des fils sur la tête. Et dans la boîte, il y a des passages de la loi de Moïse. Parce que la loi disait, tu mettras sur ton front et tu liras à ta main la parole. Et les Juifs l'ont interprété de façon littérale. Et alors, cet homme qui est arrivé là, il a accompli ce devoir religieux. Il s'est mis, tout dans son attitude, laissait penser que ce n'était pas du tout habituel chez lui. Mais là, pendant un instant, il a fait un devoir religieux. Mes frères et sœurs, dans ce temple, ce jour-là, il y avait des hommes et des femmes qui étaient venus. Ils étaient peut-être même venus de loin, ils étaient venus, ils avaient acheté un sacrifice, comme la loi le disait, ils avaient acheté un sacrifice, et ils étaient là pour offrir ce sacrifice, quelque part dans leur cœur, ils étaient là parce qu'ils reconnaissaient la seigneurie, la grandeur de Dieu, ils reconnaissaient qu'il y avait un Dieu, ils reconnaissaient qu'ils étaient de ce peuple-là qui est le peuple de Dieu. Et voyez-vous, ça m'interroge beaucoup, ça, parce que, sans s'en rendre compte, chacun de nous, nous pouvons peut-être un jour être dans ce cas-là. Nous sommes le peuple de Dieu et nous venons dans le temple de Dieu et nous venons avec une intention qui n'est pas mauvaise en soi. Et nous venons célébrer le Dieu vivant et vrai. Mais la question c'est, à quoi s'attendait-il vraiment? À quoi s'attendait-il? Le Seigneur va leur dire, ce que vous ne verrez pas, mais la maison, cette maison devrait être une maison de prière. Et quel est le but de la prière? C'est quoi le but de la prière? C'est une récitation? Vous savez, j'ai été dans un pays où j'ai vu des hommes à côté de moi, assis sur un banc, et ils discutaient entre eux, je vous assure que c'est vrai, ils discutaient entre eux du dernier match de foot, où une équipe avait écrasé l'autre, ou je ne sais pas quoi. Et l'un des deux, en même temps, avait quelque chose qui ressemble, je ne sais pas si c'était le cas, mais quelque chose qui ressemble à un chapelet avec des billes, et il est grainé au fur et à mesure, tout en discutant du match de foot. Que faisait-il? Une récitation avec les doigts? Son esprit était déjà ailleurs, puisqu'il parlait du match de foot. Est-ce que lorsque je viens et que je me présente devant Dieu, je dis des paroles que sont des paroles que j'ai entendues, que je répète? Vous savez, je suis frappé de voir que je prends des petits clichés comme ça. Chacun pourra après développer dans son esprit avec d'autres formes. Mais je suis frappé de voir combien de fois j'ai entendu « Seigneur, tu nous as précédés dans ce lieu ». Parce que le Seigneur nous précède dans ce lieu. L'Église serait-elle les murs? Toute la parole ne me dit pas ça. Elle me dit que l'Église de Jésus-Christ, c'est vous et moi. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est nous tous ensemble. Nous sommes les pierres vivantes. Merci Seigneur pour les beaux bâtiments que nous pouvons acheter, que nous pouvons construire, qui sont beaux témoignages. Je me réjouis, mais l'Église, c'est vous et moi, mes frères et sœurs. C'est en nous que Dieu fait son habitation. Mais voyez-vous, on a entendu peut-être quand on était enfant ça, et on le répète, tu nous as précédés. Mais le Seigneur, il ne nous précède pas, il est avec nous. Le Saint-Esprit sera en vous. Alléluia. Pas besoin qu'il me précède, il est en moi. Combien de fois j'ai entendu, Seigneur, au moment du repas, bénis les mains de celui qui a préparé ce repas. Moi, j'ose espérer que le Seigneur bénisse bien plus que les mains. Seigneur, bénis la maison qui me reçoit, bénis la famille qui me reçoit. Vous voyez, on répète des choses, mais notre cœur y est-il vraiment? Notre esprit y est-il vraiment? Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi ton enfant. Waouh ! Seigneur, je suis ton enfant, l'enfant du Père éternel, du Dieu tout-puissant. Waouh ! Seigneur ! Alors, la prière, est-ce que c'est une récitation ou bien c'est un cri du cœur ? Et ces hommes qui étaient venus dans le temple, ils étaient venus, mais au fond, pourquoi sont-ils venus ? Est-ce qu'ils sont venus pour un moment de rencontre avec Dieu ou ils sont venus pour satisfaire leur conscience? Leur conscience, c'est il y a une loi et dans la loi, il est prévu de faire ça, alors je vais le faire. Une espèce presque, on pourrait dire, de superstition. Je fais parce que je dois faire. Mais est-ce qu'ils s'attendent à l'intervention de Dieu dans leur vie? Le texte me dit qu'il y a des aveugles et des boiteux qui s'approchent de lui dans le temple et il est guéri. Des choses, il nous est dit, il fit des choses merveilleuses. Mes frères et sœurs, s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui soit malade et qui soit guéri, un boiteux qui reparte en marchant, un aveugle qui reparte en voyant. Mais j'ose espérer que tous, on louerait le Seigneur, on adorerait Dieu, que les murs en trembleraient. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. » Ils furent indignés. Pourquoi ils furent indignés? Parce que c'était quelque chose qui était en dehors, excusez-moi, je vais le dire comme ça, du protocole du lieu. C'était en dehors de l'habitude. Parce que, mine de rien, vous et moi, parce que nous sommes des hommes, nous avons tellement de facilité à rentrer dans des habitudes. Nous avons tellement de facilité à petit nous installer dans des habitudes, nous installer dans un, excusez-moi, un ronron. Nous installer dans des façons de faire, nous installer dans des réunions stéréotypées. Et c'est plus facile pour tout le monde. C'est plus facile pour nous, les pasteurs. C'est plus facile pour les frères et sœurs qui sont, qui travaillent à la préparation de la réunion. C'est tellement plus facile. On maîtrise. On a déjà fait, on sait comment faire. Et là, ceux qui étaient au service du temple, ceux qui étaient dans la maison de Dieu, ils avaient perdu de vue qu'ils étaient dans la maison de Dieu et que celui qui était vivant au milieu d'eux, celui qui était présent au milieu d'eux, c'était le Dieu vivant et vrai. Et le Dieu vivant et vrai, il est capable de faire des merveilles. Alléluia! Et mes frères et sœurs, le Dieu vivant et vrai qui est au milieu de nous, il est capable de faire des merveilles. Et si ça nous bouscule, eh bien ça nous bouscule. Alléluia, merci Seigneur, viens nous bousculer. La parole de Dieu, l'apôtre dira aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu habite en nous. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas penser que l'Esprit de Dieu ne nous bousculera jamais. Il ne faut pas penser que l'Esprit de Dieu, il vient en nous et que nous, nous allons continuer notre petite vie bien pensée, bien préparée. Pas du tout. L'Esprit de Dieu, il vient, il nous bouscule. Le temple, c'est le lieu d'une communion, d'une dépendance. Seigneur, si je viens dans l'église, si je suis ton enfant, si tu fais de ma vie ton habitation, si tu viens par l'Esprit Saint habiter en moi, alors Seigneur, c'est le lieu d'une communion et d'une dépendance. C'est pas moi qui vais te dire ce que tu as à faire, c'est toi qui vas me le dire. Mes frères et sœurs, tant de fois, je l'ai observé et je me surprends quelquefois moi-même, tant de fois nous prions et nous exposons au Seigneur notre besoin et en même temps que nous exposons notre besoin, nous lui indiquons la solution qu'il faudrait utiliser. Seigneur, ce serait bien, viens, fais ça, Seigneur, je t'en prie. On lui dit comment faire. Mais il ne nous a pas attendu pour le savoir. Puis non seulement il ne nous a pas attendu pour le savoir, mais lui, il a des solutions qu'on ignore totalement. Il a des visions qu'on ignore totalement. Seigneur, nous te sommes dépendants. Nos vies t'appartiennent. Et Seigneur, lorsque nous avons un besoin, nous venons, nous te disons, Seigneur, regarde. Regarde le besoin. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais regarde le besoin. Un jour, vous savez, le texte biblique nous dit qu'un jour, le roi Ézéchias, il était avec le peuple à Jérusalem, ils étaient dans un siège terrible. Et et il y avait une famine terrible. L'armée des Assyriens qui était là, le chef militaire Ramsaké, il venait et il haranguait les gens qui étaient sur la muraille et il leur disait « Ne vous laissez pas abuser par le roi qui vous dit de vous confier en Dieu. On a écrasé tous les peuples avant vous, vous ferez comme les autres, on vous écrasera, rendez-vous. » Et le roi, devant ce grand désastre, ce siège qui amène à une famine terrible, ces assaillants qui démobilisent tout le peuple, il finit par cet assaillant va finir par envoyer une lettre au roi en lui disant « Rends-toi et de toute façon tu finiras comme tous les autres ». Et le roi finit par prendre cette lettre et aller au temple, l'ouvrir et dire à Dieu « Seigneur, regarde, regarde ». C'est-à-dire, il dit au Seigneur, « Seigneur, voilà le problème. Voilà le problème dans toute son étendue. Voilà, je ne peux rien faire devant ça. Seigneur, regarde. » Mes frères et sœurs, nous sommes dépendants du Dieu vivant et vrai. Et nous devrions dans nos vies dire, « Seigneur, regarde. Regarde la terrible peut-être situation dans laquelle je suis. Regarde, Seigneur. Je sais que toi, tu as la solution. Toi, tu as la solution. Solution que j'ignore. » Mais toi, tu l'as. Le texte d'Ézéchias nous dit le lendemain, quand il a fait jour, il y avait sur la colline d'en face 185 000 morts, l'armée du roi d'Assyrie. Un truc terrible, sans aucun combat. Dieu a des solutions que nous n'avons pas. Le texte de l'Évangile nous dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Le temple est un lieu à part. Le temple, c'est le lieu où Dieu se plaît à exaucer. Vous savez que l'Esprit Saint, il est venu faire son temple en nous. Et ensemble, nous sommes la maison de Dieu. Ensemble, c'est là, le texte biblique, le psaume 123, nous dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie à jamais. Le temple, c'est un lieu à part. C'est une maison de prière avec des vies transformées. Et voyez-vous, j'aimerais rapidement en arriver à cette parole que le Seigneur va dire. Vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est terrible de penser que le temple, l'endroit le plus consacré à Dieu, l'endroit qui était pour Dieu, le Seigneur va leur dire, vous en avez fait une caverne de voleurs. Waouh ! Quel mot fort ! Mais qu'est-ce qu'ils volent au juste ? Que volent-ils ? J'ai regardé, vous savez, différents commentaires bibliques. Ils sont peut-être vrais, mais à mon avis très en dessous de la réalité. Certains commentaires bibliques disent sans doute les changeurs qui étaient là, ils devaient voler un peu des sous. Ils devaient faire un peu de commerce et peut-être un peu de commerce à leur avantage, quoi. Possible. Je crois, mes frères et sœurs, que si ce n'avait été que ça, Jésus aurait mis dehors les vendeurs. Mais il a mis dehors les vendeurs et les acheteurs. Donc je dis des sous, peut-être. Mais voyez-vous, il volait quelque chose de bien pire. Il volait la communion avec. Il volait la bénédiction. Il volait le fait que ces hommes et ces femmes qui étaient là, ils étaient venus plus que dans une seule pensée, c'est un devoir religieux. Ils avaient petit à petit enfermé les gens à la pensée qu'on venait faire un devoir religieux et que quand on avait acheté le sacrifice et qu'on avait donné le sacrifice, en étaient en règle. Ils avaient amené les gens à rétrécir l'action de Dieu dans leur vie. Ils avaient amené les gens à ne penser plus que la relation avec Dieu comme une relation religieuse de règles qu'on suit. Mais des aveugles et des boiteux guéris, alors là, scandale ! Et c'était pourtant ce que Dieu seul pouvait faire. Et dans le temple de Dieu, quoi d'étonnant que Dieu fasse ? Alors, je voudrais terminer rapidement, mais une question pour nous. Est-ce que nous serions indignés s'il y avait des merveilles au milieu de nous, même si ça bousculait l'ordre de la réunion ? Je sais, hein, Alain, je dis ça en tremblant pour toi. Hein. J'ai été pasteur pendant des années. Hein. Même si ça bouscule. Je me souviens un jour, je vous dis juste une anecdote comme ça. Un jour, c'était... On a eu la grâce d'implanter une église aussi. Et cette église a grandi. Et elle était en pleine croissance. Et on s'est donné... autant qu'on a pu pour l'Église, et un jour, on a fait la longue veille, c'était le 31 décembre, alors tout le monde s'était mis sur son bel habit, on avait mis des chaises, des tables, les décos, les sœurs, elles étaient hyper bien pris les choses en main, il y avait des décos partout, on a fait un programme super, etc. Voilà. On chante un chant, il y a quelqu'un qui vient sur l'estrade, presque ivre, qui veut prendre la parole, qui la prend. J'essaye de gérer tant bien que mal. Hein. Quelle joie, quelques années après, de voir cette personne passer par les eaux du baptême, donner sa vie au Seigneur. Heureusement qu'il y a une personne pour l'en empêcher ce jour. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être indignés des merveilles que tu fais. Notre loi religieuse primerait-elle sur la présence de Dieu ? Seigneur, lorsque nous nous présentons devant toi, nous avons beaucoup de mal à comprendre, nous le disons, mais nous avons beaucoup de mal à comprendre que tu es le Tout-Puissant. Que tu peux prendre un Saul de Tarse, quelqu'un qui est un persécuteur de l'Église, et en faire un fondateur d'Église. Waouh ! Seigneur, ça c'était même pas dans ma pensée. Et tu es capable de le faire. Est-ce que nous considérerions l'Église comme un lieu de rassemblement d'hommes simplement ? Mon frère, ma sœur, ce matin on est venu, on a chanté les louanges, c'était bon, mais la parole de Dieu me dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, il ne nous a pas précédés, non, il n'avait pas besoin de nous précéder, il est là. Et est-ce que Jésus aurait changé, mes frères et sœurs ? Peut-être quelqu'un dans l'assistance est venu ce matin, il est dans un problème, il a une souffrance, il a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Je voudrais te dire, le Seigneur Jésus est là, au milieu de nous, et il n'a pas changé. Et il est le même. Et la puissance de Dieu... pour nous, elle est la même. Alors, est-ce que nous sommes venus simplement pour chanter, pour prendre la Sainte Cène ? C'est très important de prendre la Sainte Cène. C'est nous remémorer que le Seigneur est mort pour nous. Est-ce que nous sommes venus pour écouter un prédicateur ? Aujourd'hui, c'est ce prédicateur qui a été présenté. Une autre fois, c'est un autre. Ou bien nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. La parole me dit dans Jacques, il n'y a ni changement ni ombre de variation en Dieu. Le Seigneur est le même aujourd'hui que ce jour-là quand il a chassé les vendeurs du temple. Le Seigneur est le même, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le rappelais tout à l'heure, le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles elles ne passeront point. Et... voyez-vous, quand on vient dans l'Église de Jésus-Christ, quand on prend un moment à part où on se tient devant Dieu, alors on est dans l'Église de Jésus-Christ pour rencontrer Jésus-Christ, pour que nos vies changent, pour que dans nos vies, tout ce qui a pu être un handicap dans nos vies, tout ce qui a pu être une captivité, tout ce qui a pu être quelque chose qui nous a empêchés d'avancer dans la vie chrétienne même, eh bien ces choses-là, elles soient passées. Le Seigneur va dire, vous connaissez ces versets, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Seigneur, tu es venu pour transformer les vies, pour transformer nos caractères, pour faire de nous non plus des enfants de colère, non plus des gens avec un caractère, avec des paroles qui fâchent, des paroles qui tuent, mais pour faire de nous des hommes et des femmes qui sont une bonne odeur de Christ. Alléluia. Tu es venu, Seigneur, pour donner la délivrance sur tes complexes, la délivrance sur tes souffrances du passé, la délivrance. Seigneur, pour me délivrer de toutes ces choses-là. Seigneur, tu es venu pour me délivrer peut-être des passions, me délivrer des travers, me délivrer de tout ça. Tu es venu pour rendre libres les opprimés. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur, il est celui encore qui fait une œuvre nouvelle dans nos vies. Seigneur, tu es venu pour bousculer notre vie religieuse. Tu es venu pour faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Tu es venu pour faire de nous des hommes et des femmes qui dépendent de toi. Ce n'est pas un lieu d'habitude, l'Église. C'est un lieu de transformation. On va rester là. Il y avait d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. C'est un lieu de transformation. Je voudrais prendre un instant, prier ensemble. Peut-être quelqu'un au milieu de nous est dans un moment où il avait besoin d'entendre cette parole. Et je voudrais lui dire simplement de la part du Seigneur, tu es venu à l'Église ce matin, tu n'es pas venu accomplir un devoir religieux. Tu n'es pas venu parce que c'est dimanche, et parce qu'un chrétien le dimanche vient à l'église. Non, tu es venu pour rencontrer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui fait une œuvre que lui seul peut faire. C'est une rencontre exceptionnelle. C'est une rencontre où seul Dieu peut faire ce qu'il va faire dans ta vie. Il est celui qui veut bousculer ta vie. Il est celui qui peut délivrer, restaurer, relever, redonner une nouvelle vision. Il peut renouveler tes forces, il peut te guérir, il peut agir dans ta vie, il peut changer ta vie. Il n'est pas celui qui simplement te demande d'adhérer à une pensée, d'adhérer à une façon de vivre, d'adhérer à une culture. Non, il est celui qui est capable de bousculer ta vie et faire de toi une nouvelle créature.